donne, ayant des raideurs. Je peux y aller. Donc voilà, donc la biosphère, un agent géologique majeur, Festival de Florence, août 2020. Alors vous savez tous que la vie est née sur la Terre, il y a à peu près 4 milliards d'années, et forcément pendant ces 4 milliards d'années, elle a dû s'adapter à la Terre. Parfois même, elle a eu beaucoup de mal à s'adapter, et il y a eu des grosses extinctions avec des catastrophes terribles. Indépendamment de ces catastrophes, la vie, elle doit faire avec la Terre, et par exemple sur cette coulée de lave récente, il n'y a pas beaucoup de place pour les plantes de pousser, elles poussent là où elles peuvent, et c'est vraiment la Terre qui commande, et les plantes obéissent, et encore. Mais vous savez aussi que parallèlement, la vie a, on va essayer de vous le montrer, a façonné et modifié sa planète mère, et beaucoup plus intensément qu'avec ces petites modifications-là au temple d'Angkor, où effectivement, si ça continue comme ça, le temple d'Angkor ne va pas durer très longtemps. Donc là, la vie modifie son substratum, mais on va voir que c'est souvent beaucoup plus important que ça. Alors, la vie a complètement transformé la croûte terrestre. Alors là, vous reconnaissez tous le canyon du Colorado. Il y a 1500 mètres de différence d'altitude entre le haut et le bas, donc vous avez une grande coupe géologique. Et les géologues dans cette salle ont forcément remarqué qu'il y avait plus de calcaire en haut qu'en bas. Et le fait qu'il y ait plus de calcaire en haut qu'en bas traduit de façon indirecte le fait que les continents ont été colonisés par les plantes entre 600 et 300 millions d'années. Je ne demande pas à ceux qui ne l'avaient pas remarqué de lever la main. Donc ça, c'est pour dire que la croûte était modifiée par la vie. La mer, évidemment aussi, ça c'est la grande barrière de corail. Il est évident que les coraux modifient la mer. Et la vie modifie l'atmosphère aussi, on va commencer par ça. Tout le monde sait que la vie, par exemple, est à l'oxygène, à l'origine de l'oxygène. Même Macron nous le dit, donc c'est forcément vrai. Alors, tout le monde connaît la composition de l'atmosphère de la Terre, tout le monde connaît ses camemberts, 78% d'azote, 21% d'oxygène, un petit pourcent d'argon et un micro-chouïa de gaz carbonique, 0,04%. Je n'ai pas mis le méthane dont Joël a parlé tout de suite parce que là, le PowerPoint n'a pas de trait assez mince pour faire ça. Donc ça, c'est la représentation classique. Je vous en présente une autre, vous allez voir pourquoi, où j'ai mis la pression au sol. La pression au sol, c'est 10 puissance 5 pascal sur Terre. C'est une échelle logarithmique, attention. Et voici la pression des différents composants de l'atmosphère sur la Terre. L'azote, 3/4 d'une atmosphère. L'oxygène, 1/4 d'une atmosphère. L'argon, 1% d'une atmosphère. Alors le CO2, ce n'est pas la peine d'en parler. Alors on compare souvent avec des camemberts l'atmosphère de la Terre, que je montre ici, et l'atmosphère de Vénus, que vous avez ici. Alors la pression est beaucoup plus forte, 93 10 puissance 5 pascal contre 1 10 puissance 5 pascal, et 96% de CO2, un chouïa d'azote, un micro-chouïa d'argon, pas d'oxygène. Et ça, vous avez ça dans tous les livres de classe, dans tous les livres d'astronomie. C'est bien, mais on peut faire mieux. Alors je reprends mon diagramme en échelle, pas camembert, et en échelle log. Là, on va regarder la Terre, et là, on regarde l'azote et l'argon de Vénus. Pour l'instant, on ne s'occupe pas du gaz carbonique et de l'oxygène. Et vous auriez vu de très loin que l'argon et l'azote de la Terre et de Vénus, ce n'est pas très différent. On peut en dire, si ce n'est pas très différent, c'est des gaz peu réactifs. L'argon ne réagit pas, l'azote pas beaucoup. Donc, si les deux planètes ont les mêmes stocks de gaz non réactifs, c'est peut-être bien qu'elles ont eu au début, quand Dieu les a faites, rappelez-vous ce qu'on a vu hier, la même quantité d'azote et d'argon, et comme ça ne réagit pas, ça reste. Si on rajoute le gaz carbonique et l'oxygène, alors là, ça change tout. Le gaz carbonique, il y en a 1 million de fois plus sur Vénus, et l'oxygène, il y en a 10 millions de fois plus sur la Terre. Donc là, c'est étonnant. Si on a reçu le même stock au départ, et l'argon et l'azote semblent une bonne indication pour dire on a reçu le même stock de départ, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé le stock pour le gaz carbonique et pour l'oxygène. Eh bien, ce quelque chose, vous le savez, c'est la vie. La vie est une, c'est pas la seule, mais une des principales responsables des modifications de l'atmosphère de la Terre par rapport à celle de Vénus, dans l'hypothèse que je prends au départ, que ce soit la vie terrestre ici ou la vie marine ici. Alors, on va donc comment s'occuper du dioxygène ? Tout le monde parle du dioxygène. Macron en parlait beaucoup il y a un an. Le dioxygène, O2, vous savez que c'est la photosynthèse, on viendra tout à l'heure voir ce que c'est, qui a fait le dioxygène de l'atmosphère. Mais figurez-vous que la vie, comme Pénélope avec cette tapisserie, fabrique du dioxygène de façon évidente. Les prétendants voient Pénélope qui tisse, mais Pénélope détruit de façon discrète, nocturne en l'occurrence, mais tout aussi efficace, sa tapisserie, qui ne grandit pas. Et si, comme ces benêts et ignorants de prétendants, on ne sait pas regarder où et quand il faut, on voit la production et on ne voit pas la destruction. Que fait la vie, comme Pénélope ? Et souvent, ce sont les ignorants qui parlent le plus fort, c'est pour ça que tout le monde dit « les forêts font de l'oxygène ». Mais les forêts détruisent l'oxygène, comme Pénélope. Mais on ne nous le dit pas. On va le voir. Alors qu'est-ce que c'est que cette photosynthèse qui fait de l'oxygène ? C'est très simple, vous prenez de l'énergie lumineuse, vous prenez du dioxyde de carbone, vous prenez de l'eau, il se passe des tas de réactions chimiques. Le but, entre guillemets, de ces tas de réactions chimiques, c'est de faire des molécules complexes, des glucides et des choses comme ça, qui contiennent de l'énergie, qui permettent à la plante ou à la bactérie de vivre sa vie, et elle rejette un déchet qu'on appelle le dioxygène, qui est un sous-produit de la photosynthèse. On peut écrire des équations, comme je n'ai pas beaucoup de temps, on ne va pas bien regarder les équations, les profs de SVT les apprécieront. Si on simplifie à outrance, on peut dire que la vie, avec la photosynthèse, prend du gaz carbonique, du dioxyde de carbone, ça fait du carbone qu'elle intègre dans des molécules, ça ne fait pas du carbone pur, hein, les feuilles ne font pas de diamant, intègre le carbone dans des molécules et ça rejette de l'oxygène. Important, c'est ces chiffres. Si vous prenez 44 grammes de gaz carbonique, ça fixe 12 grammes de carbone dans des molécules organiques et ça libère 32 grammes d'oxygène. Rappelez-vous ces chiffres. 44, 12, 32. Ce n'est pas les chiffres, c'est important, c'est les proportions. Alors, je vous présente un gland. Il est là. Alors, on va faire comme les prétendants de Pénélope, on va regarder ce qui est visible. Ce que font beaucoup de gens. Alors voici un gland, c'est pas lourd, un gland c'est tout petit, on le plante. On attend quelques bonnes dizaines d'années, et au bout de 95 ans par exemple, ce gland est devenu un chêne presque centenaire. Centenaire, si on avait attendu 100 ans. Alors on va pas comptabiliser les feuilles mortes, les branches, etc. On va faire ça à la louche. On peut dire qu'à la louche, ce grand chêne fait 10 tonnes de bois sec, et grâce à l'énergie solaire, j'ai fait les calculs, il a absorbé à peu près 15 tonnes de CO2. Il a absorbé de l'eau que je ne comptabilise pas. Il a donc produit ces 10 tonnes de bois sec et produit environ 10 tonnes de dioxygène. Ça, c'est ce qui est visible. N'importe quel prétendant voilà, peut voir ça. Maintenant, arrêtons de faire comme les prétendants de Pénélope. Regardons et réfléchissons à ce qui est peu visible. Notre chaîne, comme tout le monde, va mourir au bout d'un certain temps. Naturellement, de sa belle mort, artificiellement, parce qu'un président du Brésil décide de déboiser. Bon, ce n'est pas des chaînes qui déboisent, mais c'est pareil. Donc, ce chaîne va mourir. Alors là, on va prendre une mort naturelle. Ben, y a les champignons, les insectes, tout ça, ça va le bouffer. Et en quelques années, ce chaîne aura disparu. Il ne restera plus rien. L'arbre mort va devenir, etc. Et si vous regardez, pour faire disparaître tout ce bois, les champignons, les insectes auront consommé 10 tonnes d'oxygène, décomposé les 10 tonnes de bois, libéré de l'eau et 15 tonnes de gaz carbonique, de CO2. On sera revenu au point de départ. On était parti d'un petit gland et on sera revenu à trois fois rien. C'est à peu près pareil qu'un petit gland. En effet, les insectes, les champignons, tout ça, ça respire. Ça mange, puis ça respire. Si ça ne respire pas, ça fermente et d'autres mangent les produit de la fermentation, et le résultat, c'est que si vous prenez des molécules de bois organiques qui contiennent 12 grammes de carbone, ces petites bêtes, ces petites bactéries, ces petits champignons prennent 32 grammes d'oxygène, et ça fait 44 grammes de CO2. L'O2 produit et consommé par les écosystèmes à l'équilibre, et la forêt amazonienne est un écosystème à l'équilibre avant qu'on s'en mêle, ça ne fait rien. Pas plus que la tapisserie de Pénélope ne peut grandir, l'oxygène ne peut s'accumuler dans l'atmosphère. C'est terrible ça, parce qu'il y en a. Donc il y a quelque chose qui manque dans ce que je vous ai dit. Alors cette ignorance, j'appelle ça la fake belief, cette fausse croyance. Je ne sais pas comment on dit fake news, tout le monde connaît, mais les fausses croyances se nichent même en haut lieu. Tout le monde sait bien que l'oxygène est fait par l'Amazonie. Un homme ici que vous reconnaissez sans doute a dit le 22 août dernier, l'Amazonie, poumon de notre planète, produit 20% de notre oxygène, est en feu. Alors qu'elle soit en feu, c'était vrai. Elle produit, on va le voir, pas 20% de notre oxygène, et ensuite appeler quelque chose qui produit de l'oxygène un poumon, moi ça me gêne, mon poumon, il absorbe de l'oxygène, il ne la produit pas. Les poumons produisent du gaz carbonique et absorbent de l'oxygène. On ne peut pas demander à un énarque de connaître sa biologie. Donc, tout ça, c'est faux. Alors, c'est bien de dire que c'est faux, mais il faut creuser un peu. On va analyser cette fausse croyance présidentielle, et peut-être pas que présidentielle. Peut-être dans la salle, certains pensaient que l'Amazonie faisait de l'oxygène. Alors, on va regarder la productivité, c'est un flux la productivité, c'est une fabrication d'une forêt intertropicale en l'occurrence, en combien de tonnes de carbone sont fixées par an et par kilomètre carré. Un kilomètre carré, hein, combien la photosynthèse absorbe de gaz carbonique pour faire des molécules contenant du carbone. N'oubliez surtout pas qu'il y en a autant de libérés par la respiration, la décomposition, l'oxydation. Dans un écosystème à l'équilibre, il y a autant d'arbres qui grandissent que d'arbres qui meurent. Donc je vous rappelle que pour une tonne de carbone fixée, il y a 30,6 tonnes de gaz carbonique qui sont absorbées et 2,6 tonnes d'oxygène qui sont relâchées. Inversement, pour la décomposition et la respiration. Prenez les forêts intertropicales, l'Amazonie étant un très bel exemple, ils se fixent 1000 tonnes de carbone par kilomètre carré et par an. Sachant qu'ils sont détruits autant. Mais on va regarder ce qu'ils fixent. Les forêts tempérées, c'est moins. Moins chaud, la photosynthèse moins. 600 tonnes par an et par kilomètre carré. Les forêts boréales, encore moins. La taïga, la Sibérie qui brûle, on verra tout à l'heure, ce n'est que 400 tonnes par kilomètre carré et par an. Les terres agricoles, c'est 2 à 6 fois plus en production qu'une forêt sous le même climat. Un champ de blé produit plus à manger qu'une forêt. Les sangliers s'en rendent bien compte, ils vont manger plus les cultures. Parce que l'agriculteur fait en sorte que, par des pratiques culturales, en sélectionnant des plantes à haut rendement, en mettant des engrais et tout ça. Ça, c'est le flux. Ensuite, il y a le stock. Pas pareil, un stock et un flux. Un commerçant, c'est ce que c'est. Le stock, c'est ce qui est dans sa cave, le flux, c'est ce qui rentre et c'est ce qui sort. Dans une forêt intertropicale, il y a, en tonnes de carbone par kilomètre carré, 25 000 tonnes de carbone par kilomètre carré. C'est beaucoup, 25 000 tonnes de carbone. Et ces 25 000 tonnes se répartissent à peu près à moitié-moitié, moitié dans les végétaux, les arbres et tout ça, et moitié dans le sol, les feuilles mortes, tout ce qui est en train de pourrir dans le sol, mais qui n'est pas encore complètement décomposé. La moitié dans les arbres, dans la végétation, les animaux, ça compte pas en masse, ils sont trop peu, et l'autre moitié dans le sol, alors là, c'est les champignons, les bactéries, tout ça. Et forêt tempérée, chez nous, il y en a moins. 16 000 au lieu de 25 000. Par contre, il y en a plus dans le sol en proportion et moins dans les végétaux. Tout simplement parce que, comme il fait plus moins chaud, ça pourrit moins vite, et un arbre se décompose moins vite chez nous qu'en Amazonie. Donc l'équilibre est fait qu'il faut plus, il y a plus de carbone dans le sol en proportion que dans les végétaux. Forêt boréale, c'est encore pire. Le stock est énorme. Il y a 40 000, presque deux fois plus que la forêt amazonienne, de carbone dans un kilomètre carré de forêt boréale, la taïga. Mais il y en a un sixième dans les végétaux, c'est pas très luxuriant, une forêt sibérienne, mais il y en a 5/6 dans les sols. Et quand on brûle accidentellement une forêt boréale et qu'on la détruit complètement, vous libérez deux fois plus de gaz carbonique que si vous brûlez l'Amazonie. Parce qu'il y a une énorme quantité de carbone stockée dans le sol et les incendies de Sibérie brûlent les arbres mais brûlent aussi le sol, qui est une véritable tourbe. Donc c'est très bien de critiquer, enfin de lutter contre les incendies de forêt en Amazonie. C'est un peu se tromper de combat. Si on en avait qu'un à faire, il vaudrait mieux, pour le carbone, mieux lutter pour la biodiversité, ça serait l'inverse. Vaut mieux lutter contre les incendies en Sibérie vis-à-vis du gaz carbonique qu'en Amazonie. Alors les terres cultivées, il y a beaucoup moins de carbone, le flux est plus important. Alors c'est très variable suivant le type de culture, évidemment, mais il y a à peu près 4000 tonnes par kilomètre carré, contre, ça fait 10 fois moins que dans une forêt boréale. Et il n'y en a que 1/20 dans les végétaux. Prenez un champ de tournesol, déjà, il est nu la moitié de l'année, c'est une moyenne annuelle, donc la moitié de l'année, il n'y a pas de végétaux, et l'autre moitié de l'année, bon, il y a 1,50 m, 1 mètre, 1 mètre de tournesol, c'est pas grand-chose. Donc les terres cultivées, c'est surtout dans le sol, mais il n'y a en tout pas grand-chose. Revenons à l'Amazonie. La surface de l'Amazonie, c'est à peu près 5 millions de kilomètres carrés. Le stock de carbone qui est dans l'Amazonie, les arbres, le sol et tout ça, c'est 125 milliards de tonnes. Et le stock de carbone fixé annuellement par la photosynthèse en Amazonie, c'est 5 milliards de tonnes. Et le carbone relâché parce qu'il est oxydé par l'Amazonie, c'est à peu près pareil. Donc l'Amazonie fixe du carbone, l'Amazonie relâche du carbone, dans quantité à peu près égale. Alors ces transferts, si on prend que l'oxygène, ça fait, pour l'Amazonie, ça fait 13 milliards de tonnes, ce qui correspond à peu près à 5% de l'oxygène produit et consommé sur Terre. Macron avait dit 20, je ne sais pas à quoi avaient pensé ses conseillers scientifiques, si jamais il en a. Bon, qu'il ne sache pas, lui, c'est normal, on ne peut pas tout savoir. Mais il devrait avoir des conseillers scientifiques, manifestement, ils n'étaient pas très à jour. Alors maintenant, on va faire une expérience de pensée. Imaginez qu'on coule du béton par-dessus toute la forêt amazonienne et que juste avant, on ait aspergé la forêt d'insecticides, de fongicides et de bactéricides. Les insecticides, fongicides et bactéricides, c'est pour empêcher que les arbres morts, le sol, respirent. On tue tout. On tue tout, on met du béton. Avant, on avait des flux très forts. 5 milliards de tonnes par an d'oxygène. Équilibré. Là, on aura des flux nuls. Rien ne rentrera, rien ne ressortira. Mais c'est équilibré, des flux nuls. Zéro égale zéro. Donc faire ce que je viens de vous dire, qui est une expérience de pensée, ça serait une catastrophe pour les Amérindiens, une catastrophe pour la biodiversité, une catastrophe pour le cycle de l'eau, mais ça ne changerait rien vis-à-vis de l'oxygène et du dioxyde de carbone. Eh bien, figurez-vous que ce que fait M. Bolsonaro, c'est pire. Parce que là, ça ne change rien. Pas grave. Sauf pour les Amérindiens, la biodiversité, le cycle de l'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que font les Brésiliens? À terme, leur fantasme secret, c'est de remplacer 5 millions de kilomètres carrés de forêt par 5 millions de carrés de champs de soja ou de pâturage à vache. Et comme il y a beaucoup plus de carbone stocké dans une forêt que dans un terrain cultivé, le stock de carbone passerait, comme il est aujourd'hui, de 125 milliards de tonnes à 20 milliards de tonnes. Ce qui, à terme, libérerait, quand Bolsonaro aura tout transformé l'Amazonie, 378 milliards de tonnes de gaz carbonique et consommerait 273 milliards de tonnes d'oxygène. Ça, c'est pas rien. Alors, le CO2 libéré, les 370, correspondent à 20% du CO2 atmosphérique actuel. Parce que le CO2 libéré va dans l'atmosphère actuelle qui n'en contient pas beaucoup. Quand vous rajoutez un petit peu dans pas beaucoup, en proportion, ça augmente beaucoup. Par contre, l'oxygène, vous en prenez, mais vous en prenez dans beaucoup, il y en a 21% d'oxygène, et l'oxygène consommé correspondrait à 0,035% de l'O2 atmosphérique. 0,035%, c'est pas beaucoup. On dirait l'augmentation de retraite des retraités. On s'en rend pas compte. Donc brûler l'Amazonie pour faire des champs, c'est hyper grave pour le CO2. C'est hyper grave pour les Amérindiens. C'est hyper grave pour la biodiversité. C'est hyper grave pour le cycle de l'eau. Ça a des endroits où il pleuvra plus, etc. Mais c'est insignifiant vis-à-vis du dioxygène. Pourquoi Macron et tous les autres pseudo-écologistes font-ils de fausses annonces et emploient-ils de mauvais arguments pour défendre une bonne cause? Tellement plus facile de défendre une bonne cause avec des bons arguments. Alors je vous pose la question, je n'ai pas la réponse. Voilà, c'est comme ça. C'est triste. Alors ce qui est vrai pour les forêts, évidemment, pour tous les autres écosystèmes à l'équilibre, les savanes, les mangroves et tout ça, et évidemment tous les écosystèmes océaniques, les planctons et tout ça c'est bon. Donc l'oxygène atmosphérique serait la contrepartie stoichiométrique pour faire de la chimie de la biomasse. Rappelez-vous, 44 donne 32 plus 12. Donc l'oxygène, c'est la contrepartie, les 32, du 12 qui est dans le bois et tout ça. Alors la biomasse totale, sol, forêt, animaux, planctons, bactéries, c'est environ 3 milliards de tonnes GT, ça veut dire gigatonnes, c'est-à-dire milliards de tonnes, 3 milliards de tonnes de carbone. Alors il y a des incertitudes, ça va de, les estimations sont entre 2 000 milliards de tonnes et 6 000 milliards de tonnes. Donc l'atmosphère qui devrait contenir la contrepartie de ça, vous prenez 33 000, fois 32 douzièmes, et vous devrez dire que l'atmosphère devrait contenir 8000 gigatonnes de dioxygène. Or, elle n'en contient pas 8000, elle en contient 1 million. C'est fou, cette histoire. D'où vient ce million de tonnes, de millions de gigatonnes d'oxygène qui n'ont pas été produits ni par l'Amazonie, ni par le plancton, qui, eux tous, n'en produisent que 8000 gigatonnes. C'est une bonne question, d'où vient l'oxygène qu'on respire, puisqu'il ne vient pas de l'Amazonie, du plancton. Puisqu'il y a du dioxygène dans l'atmosphère, il a fallu qu'à certains moments, Madame Pénélope Respiration ne détruise pas ce que venait de faire Madame Pénélope Photosynthèse. Madame Pénélope Photosynthèse fait de l'oxygène, Madame Pénélope Respiration le détruit, enfin le consomme, et là, il a fallu que quelqu'un retienne la main de Pénélope Respiration, vous voyez, en train de détruire, de déchirer sa tapisserie. Alors cette décomposition, cette non-décomposition, en général très marginale, mais c'est arrivé, et c'est pour ça qu'on a de l'oxygène dans l'atmosphère. Qui devons-nous remercier d'avoir retenu de temps en temps la main de Madame Pénélope? À chaque fois que je dis ça, tout de suite, là, c'est la première fois que je sais quoi, je pense à Pénélope Fillon, je ne sais pas pourquoi. Qui a retenu Pénélope Fillon? Donc, qui a retenu Pénélope Ulysse? Qui a fait ça? Alors, prenons une forêt, il peut y avoir des débris d'organismes qui échappent à la pourriture après leur mort et qui arrivent, transportés par des rivières, dans des lacs ou au bord de la mer. Alors vous avez une forêt, etc. Et puis les arbres meurent, tombent dans la rivière, et il peut y avoir des arbres morts qui arrivent à la mer. Et si des circonstances géologiques, alors recouvrent les forêts d'origine ou recouvrent les arbres morts arrivés à la mer, qu'est-ce que vont devenir ces arbres morts arrivés à la mer ou forêts recouvertes? Ils vont devenir des couches de charbon. Voici des couches de charbon. Voici des arbres pris et photographiés dans des couches de charbon. Alors, c'est toutes ces photos-là, par exemple, c'est prises en France, hein, dans le Gard ou dans l'Hérault. Vous pouvez très bien aller voir ça quand vous voulez. Ça, ça se visite, on est même baladé en petit train, on ne paye pas beaucoup d'euros et un guide vous explique tout ça. Donc, on n'a pas besoin de prendre un billet d'avion, faire le tour du monde pour voir des choses comme ça. Donc, si on fossilise le bois qui va devenir charbon, eh bien, l'oxygène qu'a fait l'arbre, ben, il n'est pas réabsorbé puisque l'arbre n'a pas pourri. Alors ça, c'est l'Amazonie française, la Guyane en l'occurrence. Donc, vous avez une petite rivière. Regardez, elle est noire, cette petite rivière. Et quand elle arrive dans la mer, c'est tout noir. C'est pas qu'elle est polluée. Elle contient des feuilles mortes et tout ça, et des substances organiques du genre acide humique. Le plus grand affluent de l'Amazone s'appelle le Rio Negro, le ruisseau noir. Beaucoup de rivières en forêt tropicales, intertropicales, contiennent beaucoup de matière organique, dissous. C'est un peu une couleur de thé. Et ça arrive à la mer, vous voyez tout ça. Alors si ça arrive à la mer et qu'il y a des bactéries qui adorent ces substances, ça l'oxyde. Mais imaginez-vous que ces substances se mélangent à des sédiments argileux, imperméables, qui arrêtent l'oxygène. Ces sédiments venus de la forêt peuvent recevoir le renfort du plancton. Là, vous avez la côte française avec des blooms planctoniques. Si cette matière organique qui vient des continents, qui reçoit le renfort du plancton, se dépose avec des argiles ou des marnes, il faut que la roche soit imperméable, parce que sinon l'oxygène diffuse, ça va l'oxyder. Mais s'il n'y a pas d'oxygène, on ne pourra pas l'oxyder, et ça va faire ce qu'on appelle des marnes noires ou des argiles noires, des black shale en anglais. Et ces black shale contiennent beaucoup, quelques pourcents de matière organique qui a été prélevé, mis hors circuit de l'oxydation, et l'oxygène fait par ce plancton et tout ça est resté dans l'atmosphère. Alors ces marnes noires, ces black shale, ils affleurent, et s'ils sont en profondeur et qu'il se passe quelque chose, c'est là-dedans que se fabrique le pétrole, à plusieurs milliers de mètres de profondeur, pétrole qui peut être exploité par des forages. Une fois qu'il est exploité par des forages, il est oxydé dans nos moteurs et tout ça. Donc, d'où vient le stock d'oxygène de l'atmosphère que nous respirons en ce moment, sachant que ce stock reçoit et perd en permanence de l'oxygène de façon équilibrée? C'est une baignoire qui a un certain niveau, il y a de l'eau qui coule dedans et la fuite a à peu près le débit de l'eau. Eh bien, ça vient de la photosynthèse ancienne, quand et seulement quand celle-ci a été suivie d'une sédimentation puis d'une fossilisation. Si la géologie n'avait pas inventé la fossilisation de la matière organique, comme je vous l'ai indiqué, avec des argiles qui recouvrent tout, il n'y aurait pas d'oxygène dans l'atmosphère malgré la vie. Donc, nous respirons de l'oxygène fossile, sachant que ce n'est pas vrai qu'il est fossile, parce que c'est un stock qui se renouvelle en permanence. Mais la fabrication du stock, c'est fossile. Vous avez un stock qui se renouvelle. Alors, ça, c'était ce qui se passe à peu près depuis 3 milliards et demi d'années. Avant, là, je discute beaucoup, hein, il y a des querelles terribles pour dater le début de la photosynthèse oxygénique, comme on dit. Avant, il y avait une autre, apparemment, j'ai mis « il devait » parce que ce n'est pas sûr, une autre type de photosynthèse qu'on appelle la photoférotrophie. C'est la même chose. Alors, ça existe encore, il y a quelques bactéries qui font la photoférotrophie. Quand vous demandez à un biologiste « tu sais ce que c'est que la photoférotrophie ?» il me dit « oui, j'en ai entendu parler, je sais que ça existe, et puis il sait que ça ». C'est vraiment très rare dans la nature actuelle. Mais dans le temps, ça devait être beaucoup plus important. Vous prenez de l'énergie lumineuse, du CO2, de l'eau, du fer réduit, on appelle ça l'oxyde ferreux. Les mêmes réactions se produisent, ou pas tout à fait très bien. Ça a fait des molécules organiques contenant du carbone et tout ça, et ça rejette du fer oxydé, fer 3+. En général, ça, il sort un mélange, ça fait de la magnétite. CO2 plus eau plus fer réduit donne sucre plus deux fois du fer à moitié réduit, à moitié oxydé. Alors, voici je vous montre un des plus gros gisements de fossiles, qui a 3,8 milliards d'années, on trouve ça au Groenland. Tout ce que vous voyez de gris là-dedans, il y en a, c'est de la magnétite. Alors voilà la montagne, vous faites des zooms progressifs, et voici un morceau de cet oxyde de fer fait, a priori, par la photoférotrophie. Et pour montrer de la magnétite, ici, quand j'ai fait la photo, j'ai mis un aimant, et l'aimant tient. À partir de 3,5 milliards d'années, la photoférotrophie doit encore exister, puisqu'elle existe encore de toute façon, mais il y en a une autre qui est inventée, ou qui marche mieux, parce qu'au lieu de faire du fer à moitié réduit, à moitié oxydé, elle fait de l'oxygène, qui là oxyde complètement le fer qui traînait dans le coin, et ça fait pour les spécialistes de l'hématite et non pas de la magnétite. Et là, c'est rouge. On a vu, c'est ça, donc on a fait la grande marathon, on a eu 3 quarts d'heure sur la grande oxygénation. Voici un témoin de la grande de la photosynthèse qui a fait la grande oxygénation. Et là, vous pouvez mettre un aimant, ça n'attire pas. Alors si un peu on résume vis-à-vis de l'oxygène ce qu'a fait la vie, je regarderai que ce qui est dans le temps, ce qui est récent, disons qu'à moins d'un plus jeune qu'un milliard d'années, ça ne m'intéresse pas tout de suite, ça m'intéressera tout à l'heure. Vous n'aviez quasiment pas d'oxygène dans la tête, dans l'atmosphère. Vous inventez la photoférotrophie qui fait la photosynthèse, mais qui apparemment ne fait pas d'oxygène. Puis plus tard, vous inventez la photoférotrophie normale, qui fait de l'oxygène. Celle-là prend du fer, et celle-là oxyde le fer des environs. Donc celle-là le prend, celle-là l'oxyde, il y en a de moins en moins. Et passé 2,5 milliards d'années, il n'y a plus de fer dans la mer. Il y a encore du sodium, du chlore, mais il n'y a plus de fer. Le fer dissous dans la mer disparaît. La photoférotrophie n'ayant plus de fer, elle s'arrête presque. Par contre, la photosynthèse oxygénique marche tant qu'elle peut. L'oxygène, avant, il était absorbé par le fer qui traînait par là. Et ça faisait de la rouille qu'on a vu, c'est rouge. Là, il n'y a plus de fer qui traîne, alors hop, l'oxygène monte. Et ensuite, c'est une histoire récente qu'on verra tout à l'heure, c'est la grande oxygénation. Et quand on parle des extinctions, il y a une chose qui m'énerve, c'est quand les journalistes parlent des 5 grandes extinctions. Des fois, ils en rajoutent la 6e, la nôtre. Ils oublient un adjectif. Les 5 grandes extinctions récentes, s'ils veulent faire savant, phanérozoïques, c'est-à-dire depuis 550 millions d'années. Parce que la grande oxygénation, avant, il y avait plein de vie, mais c'était de la vie anaérobie, pour lequel l'oxygène était un toxique violent. Toute la vie anaérobie a disparu. C'est certainement la plus grande hécatombe de tous les temps. C'est pour ça que personne n'en parle. Il y a souvent une relation entre l'importance et le verbiage. Donc, ça a été terrible, certainement. Voilà. Alors, la vie peut modifier un autre composé très minoritaire, mais archi-important, ou archi-minoritaire, mais très important, c'est le méthane dont a parlé Joël. Il n'y a pas beaucoup de méthane dans l'atmosphère. 300 fois moins que du CO2. Mais il a un effet de serre potentiel très important, 25 à 30 fois supérieur à celui du CO2. Il y a plein de choses qui produisent du méthane, alors des choses non biologiques, j'en parle pas, c'est on va dire le volcanisme au sens très large, mais la majorité du méthane hors production humaine, est fait directement ou indirectement par la vie. C'est des bactéries dans l'estomac de certains animaux, les principaux animaux dont l'estomac sécrète du méthane grâce à des bactéries, c'est les termites et les ruminants. Les ruminants, tout le monde le sait, hein, les vaches rôdent du méthane. Les termites, les gens ne le savent pas. Ben, je vous le savais maintenant. C'est les marécages, les fameux feux follets. Avec un problème, c'est qu'il y a des marécages artificiels, qu'on appelle des rizières, qui se développent. Figurez-vous que les gens veulent manger, c'est incroyable, et ils veulent manger en plus du beefsteak, du riz et du beefsteak. Riz et beefsteak, c'est terrible pour le méthane. Et puis vous avez, quand vous avez fait du charbon ou du pétrole, etc., des fois, il y a des procédés que je ne raconterai pas, où du méthane se dégage, naturellement, une source de méthane. Alors, il y a de la neige, mais ce n'est pas en Antarctique, c'est dans le Vercors. Un endroit qui s'appelle la Fontaine Ardente. Là, il y a quelques gens qui ont mis un tas de cailloux, vous arrivez, vous craquez une allumette, ça flambe. C'est du méthane qui sort. Et depuis au moins l'époque des Romains, où cette source était déjà connue. Alors, le problème du méthane, c'est qu'il y a une haute pression, disons plus de 1000 mètres d'eau, ce qui fait 100 atmosphères, ou à basse température, par exemple dans le permafrost, ce méthane réagit avec de l'eau de façon réversible. C'est-à-dire que ça peut se faire dans un sens ou dans l'autre. Et il fait des glaces, qu'on appelle des clatrates. Alors, voici la structure d'un clatrate. C'est compliqué, on s'en passe. Voilà de la glace, clatrate. Si vous la mettez sur la table, elle se sublime doucement, parce qu'elle n'est pas stable, à une atmosphère et 30 degrés. Si vous claquez une allumette, ça fait une belle flamme. De la glace qui brûle, c'est pas mal. Alors là, vous êtes au fond du golfe de Mexique, par 1500 mètres de profondeur. Il y a dessous des gisements de pétrole, que les Mexicains, les Américains surtout exploitent. Il y a du méthane qui suinte, comme dans le Vercors, comme probablement peut-être en Antarctique, je viens de l'apprendre. Mais à 1500 mètres de profondeur, dans l'eau assez froide, le méthane gèle tout de suite et ça fait des blocs de, une colline de glace de clatrate. Alors là, l'eau est à 0 ou 4 degrés. Si cette eau chaude chauffe, peut-être que le méthane se déstabiliserait. Alors voici les endroits du monde où il y a beaucoup de clatrate. C'est essentiellement au bas du talus continental, comme dans le golfe du Mexique, et dans les sols gelés, donc au Canada, Alaska, Svalbard, Spitzberg et Sibérie. Et ceux qui sont à l'air libre ou sous des mers peu profondes, comme ici, commencent à se déstabiliser un petit peu, les ronds qui sont gros là. Donc c'est du méthane qui a été stocké, fait par des bactéries qui ont sécrété du méthane, comme celui de l'estomac des vaches. Le méthane était stocké. L'augmentation de température, là, le déstocke. Et ça, c'est terrible, parce que ça va faire augmenter la température. Mais si vous augmentez la température, vous augmenterez le réchauffement de la Sibérie. Donc, et c'est bien parti, vous augmenterez la déstabilisation des clatrates, donc vous libérerez du méthane, et ça pourra s'emballer. Donc au départ, c'était des gentilles petites bactéries qui décomposaient, qui faisaient du méthane, et ça peut aller très loin. Alors c'est arrivé au moins une fois, cette histoire d'emballement. L'homme n'y est évidemment pour rien, c'était il y a 55 millions d'années. Alors regardez pas trop ces courbes, simplement ici, ça vous donne que en moyenne, la température de l'océan a augmenté de 8 degrés, et très vite. Vous voyez, ça fait un demi-million d'années, c'est extrêmement rapide un demi-million d'années pour un géologue. Un demi-million d'années, il y avait quasiment déjà de l'homme de Néandertal. Et hop! Vous voyez, la température augmente extrêmement vite, 5, 6 à 8 degrés de la mer. Donc sur les terres, c'était bien plus. Là, vous avez une variation isotopique qui indique qu'il y a du méthane qui est sorti. Ce méthane, en sortant, il était oxydé par l'oxygène de l'air. C'est du gaz carbonique. Et ça vous donne la quantité de calcaire qui se dépose dans la mer. S'il y a beaucoup de gaz carbonique, l'eau de mer devient acide et il ne se dépose plus de calcaire. Et là, vous avez la production de calcaire. Et pendant un petit moment, les huîtres, ce n'était pas la peine d'avoir un couteau à huîtres parce qu'il n'y a plus de coquilles. Plus de calcaire. Donc, vous voyez qu'il y a eu une crise terrible il y a 55 millions d'années qui est due à la forte libération de méthane et avec tout ce qui s'ensuit. On soupçonne un volcanisme sous-marin dans l'Atlantique Nord qui venait de s'ouvrir d'avoir déstabilisé tous ces clatrates. Ça a fait en plus une mini-crise biologique. Nos ancêtres, les paléontologues qui ne connaissaient pas tout ça, ont vu entre l'époque qu'on appelle Paléocène et celle qu'on appelle Éocène. Rappelez-vous, pour ceux qui seront à la discussion, scène, ça veut dire anthropocène et tout ça, scène, ça veut dire quelque chose. Il y a eu une mini-crise biologique, et c'est après cette mini-crise biologique, pas très grande, que les primates qui existaient déjà ont explosé en biodiversité. La biodiversité des primates coïncide avec ce pic de chaleur et cette petite extinction. Nous serions peut-être les arrière-petits-fils de cet événement, libération de chaleur, libération de méthane qui a provoqué la chaleur et qui a fait que peut-être les primates se sont diversifiés. Bon, si on rajoute le gaz carbonique de l'atmosphère et celui qui est dissous dans l'eau, si on rajoute celui de la biomasse, on trouve à peu près 45 000 gigatonnes de carbone. Si on rajoute le pétrole, le charbon, tout le carbone réduit, on trouve en gros 20 millions de gigatonnes. Mais rappelez-vous, au départ, j'avais dit que si c'était comme Vénus, on aurait dû avoir un stock de 70 à 100 milliards de gigatonnes. Là, on en a 20 milliards. J'ai dit millions, c'est milliards. Donc, il en manque de 50 à 80 milliards de gigatonnes de calcaire. J'ai dit la réponse. De carbone. Où sont ces milliards de tonnes de carbone qui manquent? J'ai donné la réponse. Ils sont dans les calcaires. Alors voici du calcaire dans les gorges du Tarn. Il faut savoir qu'un kilo de calcaire contient 120 grammes de carbone. Prenez l'église de Florence qui est en calcaire, et bien elle en contient du carbone. Prenez ici les gorges du Verdon, c'est joli. Les calanques de Marseille, c'est joli. Tout ça, si on fait le bilan, ça contient environ 70 milliards de tonnes de carbone. Donc, notre détective qui cherchait le carbone, il n'a pas eu beaucoup de mal à le trouver. Il est sous nos yeux. C'est du carbone oxydé, ce n'est pas du carbone réduit. Alors, toutes les eaux terrestres, les mers surtout, mais les lacs, les rivières, etc., contiennent du CO2 dissous sous plein de formes. Alors, du sucre gazeuse, mais l'eau de mer, ce n'est pas très gazeux, hein, ce n'est pas de l'eau Perrier. Il y a donc un peu de CO2, un peu de H2CO3, un peu de CO3-, mais c'est surtout sous forme de l'ion HCO3-. Rappelez-vous votre cours de chimie. C'est soluble, c'est dissous là-dedans, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que ce CO2, qui est sous la forme de HCO3-, c'est la forme dominante, peut réagir avec les ions calcium pour donner donc deux, on va dire, carbone mobile sous forme de ion HCO3-. Ça peut réagir pour former un CO2 et un calcaire, où c'est du carbone, le C, immobilisé. Donc fabriquer du calcaire immobilise et stocke du carbone. Alors cette réaction est spontanée, mais elle est grandement aidée, pour ne pas dire catalysée, par la vie. Depuis au moins 2,5 milliards d'années, la quasi-totalité du calcaire est d'origine biologique, directe ou indirecte. Les animaux et les algues forment des coquilles calcaires. La photosynthèse déplace l'équilibre précédent et fait précipiter des calcaires. Plein de molécules bactériennes servent de germes de nucléation à cette précipitation de calcaire. Le calcaire se ferait tout seul, mais 1 million de fois plus lentement, la vie, ça le catalyse extraordinaire. Alors, je vais vous montrer quelques usines à calcaire, qui sont des usines biologiques. On pense tout de suite aux coraux. Voici une superbe usine à calcaire. Et on les retrouve évidemment fossiles, ça c'est une usine en ordre de marche, ça c'est une usine après la politique industrielle de la France, donc on n'a que des fossiles. Vous avez des coraux fossiles qui ont 150 millions d'années en Bourgogne. Et si vous regardez les coraux fossiles, on voit les gerbes de coraux, et entre les gerbes, etc., on voit un calcaire blanc fin. Si vous regardez un récif actuel, vous avez les coraux, et entre les gerbes de coraux, vous avez un sable blanc. Vous avez vu des photos, Bora Bora, cocotier, vainé, sable blanc. Qu'est-ce que c'est que ce sable blanc? Alors effectivement, quand il y a une grosse tempête, ça casse des coraux, ça fait des petits grains de sable, de coraux. Mais c'est surtout, je ne peux pas vous dire la proportion, mais au moins 50% dû à ça. Il y a des poissons, perroquets surtout, mais il y en a d'autres, qui broutent le corail, qui mangent le polype. Le corail, c'est 95% de calcaire et 5% de viande de corail, de matière organique, des choses comme ça. C'est un estomac violent, ça broie tout ça, il garde la viande, entre guillemets, et il rejette, en les chiant, le sable blanc. Quand vous vous baignez d'une plage de sable blanc à Bora Bora, faudrait dire aux riches qui vont là-bas, eh bien vous vous baignez dans de la merde. Alors ça c'est de la merde actuelle, si vous faites de l'alpinisme, de la varaptère, vous avez un Vercors, qui est un calcaire corallien fossile, on a du mal à imaginer que tout ce calcaire est passé par le tube digestif de poisson. Et bien pourtant, c'est vrai. Dit-on. En science, il faut toujours se méfier, mais c'est ce qu'on pense aujourd'hui. Alors vous avez certainement vu sur les plages les accumulations de coquilles. Là, c'est des coquilles de moules. 95 ou 19% des coquilles sont en calcaire. Et là, c'est des calcaires actuels, mais là, vous avez une plage dans la région entre Lyon et Mâcon. Donc, il n'y a pas la mer entre Lyon et Mâcon, mais il y avait la mer il y a 190 millions d'années. Vous avez des accumulations de coquilles qui ont donc piégé du carbone. Plus rare sous nos climats, mais fréquent ailleurs, vous avez une plage avec un petit otarie qui donne l'échelle, avec la maman et le bébé, regardez comme c'est mignon. Et le sable, c'est que des piquants d'oursins qui sont en calcaire. Voici l'oursin crayon, comme on voit. Je ne sais pas si vous saviez qu'il y avait des plages en piquants d'oursins. Alors en France métropolitaine, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Mais voici des calcaires, qui, le premier à 375 millions d'années, le deuxième 160 millions d'années, qui sont faits d'accumulation de piquants d'oursins fossiles. Alors là, ce sont des nummulites, c'est des animaux, c'est des algues, des animaux planctoniques unicellulaires géants. C'est une seule cellule, un peu comme le blob, une seule cellule, mais énorme. Alors les nummulites vivaient de 70 à 25 millions d'années, ça n'existe plus, les foraminifères existent encore, mais pas les nummulites. Vous savez où est-ce que j'ai pu prendre cette photo? Quel est le plus célèbre tas de calcaire à nummulites du monde? Comment? Voilà, il y en a un qui sait. La pyramide de Khéops est un tas de calcaire à nummulites. Combien de guides qui font visiter la pyramide de Khéops aux gens disent, comme ça en passant, regardez, ça se voit, les fossiles ont la taille d'une pièce de monnaie. Alors ça fait des fois des calcaires, on peut le tailler, les sculpter, c'est joli. Là vous avez une grenouille en calcaire à nummulites. Les nummulites ici sont plus petites. Là vous avez un coccolithophoridé. Apprenez ce mot, c'est bien à placer dans une conversation. Vous avez un coccolithophoridé, c'est une algue, regardez l'échelle, 2 microns. Une algue unicellulaire planctonique qui est recouverte de plaques qu'on appelle des coccolithes. Et ça vit dans la mer, ça vit encore très bien. Ça a commencé il y a 100 millions d'années, ça vit encore. Quand l'algue meurt, eh ben, ou se fait manger par ça, tous les carapaces calcaires tombent au fond de la mer et ça fait la craie. La craie est une accumulation de milliards, de milliards, de milliards, de milliards de coccolithes qui sont des morceaux de la carapace du coccolithophoridé. Et puis les bactéries ne sécrètent pas directement de parties dures, mais elles en fabriquent indirectement en déplaçant l'équilibre des carbonates par la photosynthèse. Et voici des stromatolites qui sont dans un lac, parce qu'il n'y a pas que les stromatolites de la baie des requins en Australie qui existent. Vous avez des stromatolites dans un lac, alors celles-là sont bien vivantes. Si vous voulez les voir en Australie, c'est un lac en Australie, il faut y aller l'été, parce que l'hiver, le lac est plus haut et c'est souvent 2 mètres d'eau. Si vous y allez, il faut y aller l'hiver. Si vous allez l'été, ça dépasse. Là, les bactéries sont en vie ralentie, elles attendent que le lac remonte. Au bord de la mer, c'est mieux parce que ça remonte et ça descend avec les marées. Donc, il suffit d'attendre 6 heures si vous ne les voyez pas pour les voir. Alors, des stromatolites, ça vit évidemment aujourd'hui, mais ça vivait également dans le temps. Là, c'est des stromatolites auvergnates parce que je suis un peu chauvin, mais il y en a un peu partout sur Terre. Donc, en moyenne, si on mesure tout ce qui précipite, il y a 0,4 gigatonnes de carbone qui sont stockées chaque année dans les calcaires, parce que les stromatolites grandissent, parce que les coquillages, etc. À ce rythme, vous faites une division, c'est au programme de terminale, je crois, la division, à un chiffre, à deux chiffres et après. Vous voyez qu'en 2200 ans, vous enleveriez tout le gaz carbonique de l'atmosphère. Et en 100 000 ans, vous enlevez tout le gaz carbonique qui est dissous dans l'océan. Il y en a plus dans l'océan que dans l'atmosphère. Il doit donc exister un mécanisme compensateur qui déstocke le carbone. Quand vous faites du calcaire, vous le stockez. J'ai dit à cause des coraux, coquillages, plancton, etc., il ne devrait pas plus rester de CO2 dans l'atmosphère et l'océan que de pâte dans les rayons des grandes surfaces au début du couronnement. Qui a re-rempli les rayons? Eh bien, ce qui a re-rempli les rayons, c'est l'érosion des karstes qui est grandement facilitée par la vie. Alors ça, c'est le karst de la Pierre Saint-Martin. On est près des Pyrénées, je monte les Pyrénées. C'est du calcaire. Ce calcaire est fracturé parce que la montagne a bien cassé le calcaire. Et vous voyez que les fractures sont élargies. Quand vous cassez une roche, ça fait une fente. Vous ne pouvez pas mettre le doigt dedans. Là, vous pouvez largement mettre le doigt dans les formes de calcaire. Pourquoi? Parce que sur les calcaires, il y a des plantes qui poussent. La plante qui pousse, de la mousse, des champignons, tout ça, ça prend du gaz carbonique dans l'atmosphère pour faire sa photosynthèse. Ça fait des feuilles mortes, des racines. Et les racines fermentent, respirent. Et en fait, une plante, c'est une machine à prendre du gaz carbonique dans l'atmosphère et à le mettre dans le sol. Et dans le sol, vous avez donc du calcaire, parce que c'est une région calcaire, de l'eau. Il pleut de temps en temps dans les Pyrénées, il y a des nuages. Le gaz carbonique libéré par les plantes parce qu'elle l'a pris dans l'atmosphère, et ça refait la forme mobile que j'ai appelée tout à l'heure, HCO3- et des ions calcium. Donc vous prenez un carbone mobile, le gaz carbonique de l'atmosphère, et ce processus, on refait deux carbones mobiles avec le HCO3-. Donc voilà, je passe parce que je n'ai pas le temps. Donc, la vie avec des coraux, par exemple ici, et avec la dissolution des calcaires, fait un cycle comme ça. Le stock est énorme, 70 millions de gigatonnes, mais la vie en fabrique et en dissous, à peu près équilibrée, 0,4 gigatonnes par an. Et là, il se pose un double problème. Pour faire tous ces calcaires, il faut du calcium. Si, par exemple, vous regardez tout le calcium qu'il y a dans la mer, c'est à peu près 0 g de calcium par litre d'eau de mer, vous transformez tout ce calcium qui est dans la mer, il y en a sur 3-4 km d'épaisseur, c'est la profondeur de la mer en moyenne, vous précipiteriez 1,5 m de calcaire. C'est pas beaucoup. Puisque précipitation et dissolution sont quasiment à l'équilibre, et qu'on peut en précipiter au maximum 1,5 m, comment as-tu pu faire cette falaise de 300 m de calcaire? Il a bien fallu qu'on en fabrique du nouveau de temps en temps. Ça peut pas être que... Eh bien, cette fabrication de nouveau, il faut amener du calcium nouveau pour faire du calcaire nouveau. Il vient de l'altération des sols. Là, c'est un granit. Dans un granit, il y a des roches, des minéraux qu'on appelle les plagioclases, qui contiennent des silicates de calcium. Là, vous avez un sol, les arbres prennent du gaz carbonique dans l'atmosphère, le transfert au sol, tout ça, ça pourrit. Du calcium, du gaz carbonique, de l'eau. Il y a des tas de réactions chimiques. Et qu'il y aurait bien du gaz carbonique qui rentrerait s'il n'y avait pas la vie. Mais la vie le prend tellement mieux que la simple dissolution, que les réactions chimiques se font très bien. Il va rester sur place, on va dire la terre moins ce qui est mis organique, les argiles, la silice, etc. Et il va partir des solutés, dont des ions calcium et dont des ions HCO3- qui migrent. Alors regardez pas les équations, mais dans les sols on fait ça. Ces machins-là arrivent via les rivières jusqu'à la mer. Et si vous faites la somme de toutes les équations, vous voyez que vous prenez un silicate contenant du calcium. J'ai pris la volastonite pour les géologues. Du CO2, ça fait de la silice et du calcaire. Vous preniez un carbone mobile, un bête caillou qui ne contient pas de carbone, et vous faites un bête caillou qui ne contient pas de carbone et un calcaire qui contient du carbone. Et la vie favorise l'altération chimique pour au moins trois raisons. Une que je vous ai dit, les racines, les autres débris végétaux, les champignons respirent, libèrent donc du CO2, CO2 qui a été pris juste avant par la photosynthèse, ça sécrète des acides organiques qui attaquent la roche. Les racines fragmentent les roches, augmentation des surfaces d'échange. Regardez cet arbre, manifestement, il fracture la roche. J'en ai mis d'autres, là, regardez, c'est quand même joli, voilà, l'arbre. Donc si vous fragmentez, vous augmentez la surface d'échange. Et troisième raison, c'est que les végétaux, ça casse la roche, mais ça limite l'érosion, c'est-à-dire vous cassez la roche, mais les racines retiennent le sol. Donc, augmente le temps d'échange des réactions chimiques entre les racines, les champignons, les bactéries et le sol. Vous augmentez les surfaces d'échange et vous augmentez le temps d'échange. Eh bien, c'est vachement efficace et ça marche bien. Alors, vu combien il me reste de temps, une demi-heure. Oui. Alors, on va aller vite parce que je suis bavard. L'altération des roches silicatées amène du calcium à la mer qui piège du CO2, etc. Et la vie décuple cette efficacité de cette altération. Sans la vie, il y aurait beaucoup moins de calcaire et beaucoup plus de CO2 atmosphérique. Et on a vu une autre raison, c'est que comme la vie fait du charbon ou du pétrole, c'est une deuxième façon de stocker du gaz carbonique. Et l'altération peut varier pour des raisons purement géologiques, mais comme la vie est un acteur majeur, et je ne sais pas si vous savez, mais la vie évolue, varie, eh bien l'altération a varié avec des conséquences parfois énormes. Et je vais vous montrer l'histoire de 100 millions d'années, c'est pas grand-chose, 100 millions d'années par rapport à 4 milliards d'années, où la vie a changé la face du monde. Et c'est pas vieux. On va regarder entre 400 et 300 millions d'années. Époque qu'on appelle du dévonien au carbonifère. Les géologues parlent du dévono-carbonifère. Il y a 400 millions d'années, les continents étaient dans cette position-là, il n'y avait pas de végétation terrestre développée sur les continents, il y avait peut-être déjà quelques petites mousses et beaucoup de tapis bactériens. Il n'y avait pas de glacier au pôle. Et il y a pas de, le dessinateur n'a pas mis de bleu. Ça, 400 millions d'années. 50 millions d'années plus tard, il y a 350 millions d'années, le dessinateur a dessiné des continents verts. Il y avait de la végétation terrestre, autre que des bactéries. et a commencé à dessiner, où est-ce qu'elle est ma flèche là, une petite calotte polaire au sud. Il ne peut pas y avoir de calotte polaire au nord parce qu'il n'y a pas de continent au nord à ce moment-là. Donc il y a des petits glaciers et les continents commencent à se rapprocher. Regardez, là, il y a une chaîne de montagnes en train de se faire. Ce sera la future chaîne hercynienne. Et il se trouve qu'entre 400 et 350, vers 365-370 millions d'années, il y a la deuxième, en chronologique, extinction récente. La première étant lieu avant, il y en a d'autres après. Sur les cinq dont tout le monde parle, c'est la deuxième en ordre chronologique. Alors donc, ça c'était les continents avant. Voici comment sont les continents. Quand il y a cette extinction, ils ont verdi. Il n'y a peut-être pas encore de calotte de glace. Hein. La calotte de glace, elle apparaît vers 350. Là, 370, il n'y a pas encore de calotte. Mais les continents sont déjà verts, avec des forêts. Alors, ce n'est pas du tout les mêmes forêts que maintenant. Avec des animaux qui ne sont pas du tout les mêmes que maintenant. Mais quand même, c'est des forêts. Bon, c'est une observation. Là, il y a une augmentation de la biodiversité terrestre énorme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a dû avoir des mutations que la sélection darwinienne a favorisées, d'enzymes. Et ces enzymes ont transformé un acide aminé qui existait depuis toujours, qu'on appelle la phénylalanine, en trois alcools. Donc, il y a des enzymes qui ont transformé un acide aminé en trois alcools. Il y a d'autres enzymes qui ont fait polymériser ces alcools. Alors voici la formule des trois alcools. Et voici la formule de la molécule obtenue par polarisation, c'est la lignine, c'est le bois. À cette époque-là, la nature, Darwin, Dieu, vous mettez le nom que vous voulez, a inventé le bois. C'est une histoire de mutation biologique. Et, chose très curieuse, c'est une molécule très difficile à dégrader, et les dégradeurs de cette molécule n'ont été inventés, entre guillemets, qu'à peu près 60 millions d'années plus tard. C'est ce que disent certains, ça se discute beaucoup, ça se conteste, etc. Mais on va faire comme si. Est-ce qu'il y a une relation entre cette extraordinaire augmentation de la biodiversité continentale et la grande crise biologique, la deuxième en chronologie, qui est une crise biologique marine? C'est dans la mer qu'il y a 40% des espèces qui sont mortes à cette époque-là, alors que sur les continents, ça explose. C'est à peu près contemporain. D'abord, de quoi sont morts toutes ces bestioles marines? Entre autres, d'une anoxie quasi générale. L'océan mondial, qui contenait de l'oxygène, avec les poissons qui respiraient, il n'y a aucun problème, est devenu anoxique. Et les poissons sont morts la bouche en l'air. Alors, sur le terrain, comment ça se présente cette formation? L'extinction a eu lieu pendant cette époque-là, où il s'est déposé à peu près un mètre de sédiments, tout noir. Tout noir, c'est parce qu'il y a beaucoup de matière organique, il n'y a pas d'oxygène à l'époque, dans la mer. Donc, anoxie. En dessous, la biodiversité marine est normale. Et au-dessus, la biodiversité marine est réduite de 30 à 40%. Donc, il s'est vraiment passé quelque chose là. Qu'est-ce qu'il a pu se passer? On va supposer que c'est à cette époque que les arbres commencent à pousser. Avant, il y avait que des mousses ou des bactéries. Comme je l'ai dit, il y avait à cette époque relativement peu de décomposeurs. Il y en avait, mais moins que maintenant. Donc la matière organique, les arbres, s'accumulait beaucoup plus dans les sols que maintenant. Avant, il y avait beaucoup moins de sols, des mousses, ce n'est pas des arbres. Alors ces sols vivent et respirent quand même un peu. Ça sécrète du CO2 et de l'acide humique. Acide humique et CO2 attaquent les roches du sous-sol. Et si ces roches contiennent du calcium, parce que c'est un granit, un basalte, tout comme ça, ça libère des sels minéraux, du calcium, également du phosphore et tout ça. L'érosion des fleuves amène à la mer et les sels minéraux libérés par l'altération, qui a été favorisée, et la matière organique des sols, beaucoup plus qu'avant, et des arbres morts, là infiniment plus qu'avant, puisqu'avant il n'y avait pas d'arbres. Donc vous avez la forêt, le sol, les arbres morts, et tout ça arrive à la mer. Si vous avez plein de sels minéraux qui arrivent à la mer, il y a bloom planctonique, explosion du phytoplancton. Et les cadavres du phytoplancton, des algues, la matière organique qui arrive par les rivières, les arbres morts s'accumulent sur les côtes, tout tombe au fond de la mer. Tout ça, ça se fait décomposer par des bactéries, et tout ça, qui adorent ça. Donc tout ce qui est décomposeur bouffe tout ça, mais ça consomme tout l'oxygène de la mer. Et ça eutrophise de très larges secteurs des mers, un peu comme les plages bretonnes maintenant. Bon, trop de production biologique, pas assez d'oxydation, et une très grande proportion des animaux marins meurent privés d'oxygène. Dans ce cas, si le scénario que je vous ai raconté est correct, c'est ce que pense la majorité, pas l'unanimité des géologues, la forêt a été source de mort. Ne le dites surtout pas à Bolsonaro, ça lui donnerait un argument. Je ne sais pas si Bolsonaro est sensible à des arguments autres que sonnants et trébuchants, mais quand même. La forêt, dans ce cas-là, aurait été source de mort. Et ce n'est pas fini. Puis, après cette extinction, on en est à peu près là. Regardez ce qui arrive 50 millions d'années plus tard. Regardez la taille des glaciers, d'après ce dessin d'artiste. C'est le plus terrible coup de froid des 550 derniers millions d'années. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à cette époque-là, tous ces arbres qui pourrissaient mal, ça fait beaucoup de charbon. Beaucoup de charbon, ça piège du CO2. Ça fait augmenter l'oxygène, mais ça piège le CO2. Si le CO2 baisse, l'effet de serre baisse et il fait froid. Donc ce coup de froid du carbonifère, il est dû au CO2 qui est piégé par la fabrication du charbon et aussi par la chaîne hercynienne. Regardez, là, il y a une chaîne de montagne. Dans une chaîne de montagne, vous favorisez l'altération. Or, rappelez-vous, l'altération, grâce surtout aux forêts qui poussent dessus, piège du CO2. Donc il y a eu plein de raisons. Regardez ici la courbe du CO2 depuis 600 millions d'années. Aujourd'hui, c'est 1. À cette époque-là, c'était à peu près comme maintenant, 1. Très bas. Il y avait des glaciers au pôle. Entre les deux, il n'y a pas de glaciers au pôle. Et là, la gaz carbonique est passée de 1 il y a 300 millions d'années à 10-15 il y a 150 millions d'années pour revenir à 1 maintenant. L'augmentation actuelle, bien réelle, elle est contenue dans l'épaisseur du trait. Hein. Problème d'échelle de temps. Tout ce qu'on fait actuellement est contenu dans l'épaisseur de ce trait. Et les glaciers arrivaient quasiment, les glaciers à cette époque-là, jusqu'à 30 degrés de latitude sud. Il n'y en avait pas au nord. Il y avait des glaciers jusqu'à Sydney, vous imaginez? Actuellement, c'est la capitale du surf. Et si vous faites beaucoup de charbon, conséquence, il y a beaucoup d'oxygène dans l'atmosphère, l'oxygène à cette époque-là montait jusqu'à 37% d'oxygène dans l'atmosphère. Les gens du Tour de France, qui montaient les cols de la chaîne hercynienne, n'avaient pas besoin de prendre de l'OPO pour augmenter leur oxygénation. L'atmosphère était naturellement hyper oxygénée par rapport aux 21% actuels que vous voyez. Donc si on matrice tout ce qu'on pense actuellement, on voit qu'un petit événement biologique de rien du tout, une mutation dans une mouche quelque part, et bien par effet domino, ces mutations qui ont permis la synthèse de lignine, etc., ont été la cause initiale d'une extinction, d'une glaciation, d'une hausse de la teneur de l'atmosphère en oxygène. C'est pas rien. Pour une petite mutation de rien du tout. Alors pour finir, ça va. On va voir que la vie a complètement modifié la chimie de l'océan et qu'elle participe à la fabrication de roches plus rares que le calcaire et le charbon, mais utiles aussi, les phosphates, qui sont des minerais indispensables à l'industrie chimique, à la synthèse d'engrais, aux allumettes et à plein d'autres choses. Les principaux gisements de phosphates du monde sont au Maroc, mais il y en a d'autres ailleurs, et datent de moins 70 à moins 40 millions d'années. Et ils se sont mis en place dans un contexte géologique voisin de ce qui se passe au Pérou aujourd'hui. Alors on va aller voir au Pérou ce qui se passe aujourd'hui. Mais pour vous dire que les phosphates marocains sont très riches en restes de poissons et de dinosaures marins, comme ici cette très belle dent de requin, là vous avez mes doigts qui donnent l'échelle, hein. C'est voilà typiquement un échantillon de phosphate marocain avec une dent de requin dedans. Alors au large du Pérou, aujourd'hui, il y a des milliards de poissons qui sont mangés par des millions d'oiseaux et d'otaries. Et au fond de la mer s'accumulent les cadavres et les excréments des poissons, des oiseaux et des otaries. Or, les cadavres d'animaux, poissons, oiseaux, otaries, et les excréments d'animaux, c'est très riche en phosphate. Et tout ce petit monde-là chie. Alors quand je parlais de millions d'otaries, j'exagérais à peine, je vous montrais ce que c'est qu'une chaîne alimentaire, ça m'a presque fait de la peine. Voici donc sur la côte du Nil au Pérou, des otaries qui prennent le soleil. En général, c'est très tranquille. Alors là-dedans, on peut voir, il y a quelques pachas, des gros mâles d'une tonne et demie. Il y a des femelles un peu plus petites et il y a des petits qui sont près de leur mère pour téter. Et ça se passe en général très bien. Sauf si un mâle, célibataire, forcé, lorgne sur une femelle, alors il vient voir et le pacha n'est pas content, ils se battent. Autre possibilité, et donc s'il se bat, ça fait la pagaille dans le coin. Et la pagaille, en général, ça écrase les petits. Autre possibilité, un orque, un cétacé carnivore, arrive, ils arrivent très vite, ils arrivent à presque sauter sur la pagaille et prendre des otaries. Oh, panique. Donc quand il y a une panique, il y a beaucoup d'otaries, rappelez-vous, parce qu'il y a beaucoup de poissons. Hein. Quand il y a une panique, il y a plein de petits écrasés. Et là, vous avez les otaries qui dorment, ils savent qu'il va y avoir des petits écrasés. Ils, c'est des trois vautours qui sont là. Il y a trois vautours, des ulurubus à tête rouge, qui attendent un orque ou un adolescent prétentieux qui veut prendre la place du pacha. un bel exemple de chaîne trophique, hein, du poisson au charognard. Alors, sur les îles côtières ou sur la côte, il n'y a que les fientes d'oiseaux qui s'accumulent, les otaries ne vont pas déféquer au sommet des îles. Et là, vous avez des oiseaux de mer, et vous voyez la quantité d'excréments déposés par ces oiseaux de mer. Ces excréments, et comme il y a beaucoup d'oiseaux de mer, il y a une quantité énorme d'excréments qui ont été déposés. Et en quelques siècles, ces excréments sèches et se compactent, et ça fait du guano qui a été exploité au 19e siècle comme engrais. Là, je passe, je n'ai pas le temps. Pourquoi il y a tous ces poissons qui permettent aux oiseaux de mer et aux otaries de vivre? S'il y a beaucoup de poissons, c'est parce qu'il y a beaucoup de phytoplancton, beaucoup plus qu'ailleurs. Pourquoi il y a beaucoup plus de phytoplancton ici, au large du Pérou, qu'ailleurs? Parce que mieux de la mer, on va le voir, la mer est assez pauvre en sels minéraux. Il n'y a pas beaucoup de fer, il n'y a pas beaucoup de phosphore. Par contre, sur la côte du Pérou, à cet endroit-là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pourquoi il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup? C'est parce qu'il y a du vent qui souffle du nord vers le nord-ouest, donc du sud-est. On n'est pas très loin du tropique. Coriolis joue son petit jeu. Il y a ce qu'on appelle le transport d'Ekman. Et l'eau, au lieu d'être poussée par le vent dans la direction du vent, vous demanderez à un physicien de vous expliquer, est poussée par le vent dans une direction perpendiculaire. Donc il y a de l'eau qui quitte là et qui va au large. Ça ferait un vide ici. La nature a horreur du vide. Donc d'où vient l'eau? Elle vient d'en bas. Elle remonte pour boucher le trou. Mais il se trouve que l'eau profonde est très riche en sels minéraux. Elle est froide et très riche en sels minéraux. Donc il y a plein de sels minéraux qui remontent. S'il y a plein de sels minéraux qui remontent, il y a plein de plancton. S'il y a plein de plancton, il y a plein de poissons. S'il y a plein de poissons, il y a plein d'oiseaux, de phoques et tout ça. Et plein de vautours. Donc la grande question, c'est pourquoi les eaux de fond sont riches en sels minéraux alors que les eaux de surface sont pauvres en sels minéraux? Ben là encore, c'est la vie. Là, je passe. Voici la teneur, on va reprendre que la courbe violette, en phosphate au milieu du Pacifique. Il n'y a quasiment pas de phosphate dans la mer, un tout petit peu, mais presque pas. Le tout petit peu qu'il y a, ça permet, alors il est amené par les vents de sable du désert, par des choses diverses et variées, mais il y en a très peu. Mais le peu qu'il y a, le phytoplancton le consomme, du phosphore, il y en a partout, dans la viande et tout ça. Le phytoplancton, il meurt. S'il n'est pas mort de sa belle mort, il est mort mangé par des poissons, par exemple. Et les poissons défèquent. Ou s'ils ne défèquent pas, ils meurent de leur belle mort. Donc le phytoplancton prend le peu de phosphore qu'il y a à la surface, le met dans sa chair, et tout ça tombe. La vie transfère les nutriments, nitrates, phosphates, sels de mer, de la surface, où il n'y en a pas beaucoup, vers le fond, où à force il y en a beaucoup, regardez la teneur, est multipliée par 3 à 4 par rapport à la surface. La vie appauvrit la surface de la mer en sels minéraux. Ça, c'est intéressant. On a un cas d'école, un groupe d'êtres vivants, le phytoplancton, qui vit au milieu de l'océan, rend presque invivable son propre milieu. Ça vous rappelle personne, ça? Une espèce qui rend presque invivable son propre milieu, avec une différence majeure, c'est que le phytoplancton, lui, le fait sans le savoir. Alors que d'autres, que je ne nommerai pas, le font en s'attendant. Est-ce que j'ai 5 minutes? Oui. Oui? Oui. Alors, on va voir d'autres roches marrantes, faites par la vie, qui sont anecdotiques en quantité, mais quand même importantes. J'en cite deux, une que je fais exciter, l'autre, on aura 3-4 diapos. C'est les minerais de fer. On a vu les minerais de fer, la magnétite fait avant 3 milliards et demi d'années, l'hématite fait de 3,5 à 2,5. Conséquence directe ou indirecte de la vie. Depuis, il y en a beaucoup moins qui est fait parce que la mer a plus de fer. Et pour faire des minerais de fer, il y en a d'autres qui ont été faits, celui de Lorraine en particulier, il faut des circonstances géologiques particulières. Donc, les minerais de fer, c'est quand même important, et c'est dû à la vie. Je vais vous citer une autre roche, peut-être plus anecdotique, avec du gérage parfois très agréable. Cette roche est la diatomite, roche fort utile et fort méconnue, dont la France est le deuxième producteur mondial, le premier étant les États-Unis. On en produit 250 000 tonnes par an. Alors, savez-vous que la diatomite a fait la fortune d'un industriel du 19e siècle, dont j'ai mis la photo ici, dont on parle systématiquement tous les mois d'octobre, depuis 1901, on en parlera certainement au mois d'octobre prochain. Savez-vous qui est cet industriel qui a fait fortune, entre autres, grâce à la diatomite? Nobel, Alfred. Parce que la diatomite, c'est une accumulation de milliards de coquilles siliceuses d'algues planctoniques, lacustres ou marines, C'est très micro-perforé, le rapport surface sur volume est énorme et ça stabilise plein de solides instables, dont la nitroglycérine, c'est comme ça que Nobel a fait fortune. Et non seulement ça stabilise la nitroglycérine, mais ça sert à faire plein de filtres, les piscines, etc., mais aussi la bière et le vin. Savez-vous qu'il faut entre 0,1 et 1 g de diatomite pour faire 1 litre de bière? Et par la canicule, c'est important. Pensez à la géologie et aux microalgues quand vous boirez votre prochaine pression. C'est quand même important. Alors là, on va conclure. Je suis dans les temps, c'est bien. Avec cette diatomite, un peu anecdotique, sauf que la bière, c'est important. On filtre le vin, mais maintenant, il remplace par une autre méthode pour le vin. On avait eu au moins 3 cas où la vie, non seulement a influencé la Terre, c'est le sujet de cette conférence, mais par des rétroactions, a fait des dégâts considérables sur la vie elle-même, même si d'autres en ont profité par la suite. La grande oxygénation, hécatombe chez les espèces anaérobies. L'invention de l'arbre, invention avec des guillemets, hécatombe dans les océans. Le développement du phytoplancton, quasi-désertification de l'océan. Donc là, la vie... Alors vous savez qu'il y a un nouvel acteur qui intervient depuis quelques temps, qui fait partie de la biosphère, et que d'aucuns appellent Homo sapiens. Donc, vous le savez. Et vous savez également, depuis le mois de mars, qu'il y a des virus. Certains sont très à la mode, et maintenant tout le monde sait ce que c'est qu'un virus. Qu'est-ce que c'est qu'un virus? C'est un parasite qui se multiplie aux dépens de son hôte, qui souvent le rend malade, et parfois va même jusqu'à le tuer. Les exemples de ce que peut faire un virus. Eh bien, se multiplier aux dépens de son hôte, c'est ce qu'est en train de faire Homo sapiens avec la Terre. Alors, il ne tuera pas la Terre, mais il l'abîme bien. Et j'ai mis « espérons que l'humanité aura plus de cervelle qu'un stupide virus ». Et c'est avec ce vœu, qui j'espère ne sera pas un vœu pieux, qu'il est temps de s'arrêter. Et maintenant, c'est un appel à Bruno. Bruno, il faudrait qu'il fasse, trouve un biologiste qui fasse la conférence symétrique. Qui fasse la moi, je suis géologue, je vais parler un peu de vie. Il faudrait qu'un biologiste parle un peu de géologie en disant à une conférence, la géosphère, un agent biologique majeur. Ça sera pour une autre fois. Merci de votre attention.
Merci Pierre. Toujours, toujours très vivant, très imagé. Voilà, je suppose que tout le monde s'est passionné pour cette conférence. J'en profite pour te dire que quand tu dis on est dans les temps, oui, si on s'accorde que 9 minutes pour les questions, parce qu'une heure et demie, c'est questions comprises.
Ouais. Allez très vite.
Ah oui, non, c'est surtout dans les réponses qu'il
faut.
Voilà,
les réponses très vite.
Parce que les questions sont souvent courtes. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non. Est-ce qu'il y a des questions sur Internet?
Non.
Non.
Non. Bon, eh bien, au revoir.
Fini.
Non, alors, vous ne faites pas l'effort d'une petite question quand même?
Ici, ici.
Là, là-haut. Là-haut aussi. Là, il y a 3 déjà. Sur... Remarque, quand vous levez la main, faites pas ça. Faites ça.
Sur Internet, elles vont peut-être arriver maintenant.
Voilà. Hein. Vous êtes un peu des timides maladifs. Hein. C'est à vous, collectif.
Oui, une question. Est-ce que pour que la vie puisse se transformer...
Pour que là ?
La vie puisse se transformer, évoluer, subsister, est-ce qu'il ne faut pas que ça se passe dans un temps long ?
Alors, l'évolution macroscopique, c'est-à-dire, par exemple, pour l'apparition de la forêt, entre la première mutation et le développement forestier, il y a eu 30 ou 40 millions d'années, hein, c'est un phénomène. Etc. Sur ce, il y a des mutations qui peuvent faire des micro-détails... qui peuvent aller assez vite. Je donne 2 exemples. L'isthme de Panama était ouvert, il s'est fermé il y a 15 millions d'années, ou 7 millions d'années, excuse-moi. C'est pas vieux, 7 millions d'années. C'est l'âge de Toumaï, à peu près, première hominidée. Et les petites crevettes qu'on trouve sur le côté pacifique du Panama sont déjà d'espèces différentes de celles qu'on trouve sur l'Atlantique. Un autre exemple classique, c'est la taille moyenne des grillons qu'on trouve dans le métro, etc., Il y a des grillons qui poussent dans le métro. Et depuis le début de l'ère métro parisien, depuis le début de l'ère ATP, etc., les biologistes ont remarqué des petites variations héréditaires qui se sont faites en un siècle. Mais c'est des micro-mutations. Pour passer, je ne sais pas, de Lucie à nous, en admettant que Lucie soit notre ancêtre direct et pas notre cousine, il a fallu quand même 3 millions d'années. Donc micro-évolution, ça va vite, macro-évolution, c'est plus lent.
Alors si on remplace en Amazonie les cultures, la forêt par des cultures, on va créer un déséquilibre au niveau du CO2.
Tu ne feras pas de déséquilibre une fois que tu auras rétabli le nouvel équilibre. Si les cultures sont en équilibre, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que tu vas déstocker. Alors par contre, ça sera terrible pour la biodiversité. Dans un champ de soja, il n'y a pas beaucoup de choses variées. Mais un champ de soja produira plus, et quand tu mangeras le soja, tu produiras plus de CO2, mais c'est comme une baignoire avec une fuite, ou pas de fuite. Si tu as une petite fuite, un petit robinet, ou une grosse fuite et un gros robinet, il n'y a pas de problème. Mais là, si tu remplaces une grosse baignoire par une petite baignoire, ben, forcément, il y a de l'eau qui a débordé. Ce que fait Bolsonaro, ce qui est terrible, c'est qu'il déstocke.
Est-ce que vous pouvez descendre, s'il vous plaît, pour la question ?
Le web, pas de question ?
Non, je ne sais pas quelle est la question. Je demandais à cette jeune femme si elle pouvait descendre, plutôt que d'obliger un vieillard à monter. Est-ce qu'on sait à quoi ressemblait la vie avant la grande oxydation ?
L'oxygénation,
voilà. Oui.
C'était que des unicellulaires, ça c'est sûr, a priori des non-eucaryotes, c'est-à-dire des cellules qui n'avaient pas de noyau. Il y a trois grands groupes d'êtres vivants sur Terre, les eucaryotes qui ont un noyau, les bactéries qui n'en ont pas, mais qui ont un métabolisme totalement différent des eucaryotes, et les archées qui morphologiquement ressemblent à des bactéries, mais qui au point de vue métabolisme ressemblent aux eucaryotes. Donc c'était des archées et des bactéries. Quand je dis et ou, parce qu'avec un fossile de 2 milliards et demi d'années, c'est pas très... Déjà, la différence entre archées et bactéries, les biologistes, avec des vivants, des microscopes et tout ça, l'ont découvert il y a 25 ans. Il faut dire que c'était que des biologistes. Avec des fossiles, c'est extrêmement difficile. Et il n'y a évidemment plus aucune trace d'ADN à cette époque-là. Ça se distingue très bien avec la biochimie. Mais l'ADN est une molécule fragile, les protéines sont fragiles, il n'y a plus de protéines dans l'ADN de 2 milliards et demi d'années. C'était des unicellulaires. On a trouvé la taille de ces cellules est identique à la taille des unicellulaires actuelles.
Il y a une conférence du marathon à revoir d'ailleurs.
Oui, qui est sur le web. Là. Et puis ils sont en bas. Ça va.
Est-ce qu'on peut stocker du CO2 de manière artificielle ?
Alors, c'est un énorme sujet de recherche pour certains. Il y a les deux extrêmes. On dit qu'il ne faut plus faire de CO2, on modifie notre mode de vie et on arrête d'en faire. Deuxième solution, il ne faut pas modifier notre mode de vie. On continue à faire du CO2, mais comme c'est dangereux, on va le stocker. Et le stocker pour le long terme, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on le stocke maintenant pour qu'il soit dans 50 ans. C'est qu'ils mettent plusieurs millions ou dizaines de millions d'années à sortir. Il y a des recherches dans les stockages géologiques. On le dissout dans des nappes d'eau salée captives. On cherche un endroit, par exemple, dans le bassin parisien, il y a une nappe d'eau salée qui est dans les calcaires du Doguer, qui est à 1500 mètres de profondeur. Et cette nappe d'eau salée, qui n'est pas buvable, c'est d'eau saturée, on pourrait dissoudre je ne sais pas combien de milliards de tonnes de gaz carbonique. Il y a le réinjecter dans des puits de pétrole abandonnés. Si les puits de pétrole, il y avait du pétrole, c'est que la roche peut en contenir. S'il y avait du pétrole, c'est que c'était plus ou moins étanche, sinon il n'aurait plus serait sorti. Donc si on réinjecte du pétrole et qu'on bouche bien, ça, le problème sera bien bouché. Et puis on peut faire des réactions entre le gaz carbonique et un certain type de roche. Les meilleurs types de roches où on peut faire ça, c'est les péridotites. Pour injecter du gaz carbonique dans une roche riche en magnésium, on ferait du carbonate de magnésium qui serait stable pour des dizaines de millions d'années. Mais c'est peut-être un peu jouer à l'apprenti sorcier. J'ai dit, par exemple, on réinjecte dans un puits de pétrole abandonné. Alors d'abord, il y a un problème. Ils voulaient faire ça à lac, avec un puits de gaz de lac. Tous les écologistes du coin sont pour limiter le gaz carbonique, mais pas qu'on le stocke chez eux, forcément. Donc, il y a une opposition des populations locales peut-être justifié, parce qu'une méthode expérimentale, peut-être que ça rate. Et peut-être que le CO2 qu'on a mis, mais on ne peut pas faire des choses sans faire des expériences. Il faut bien qu'elles soient quelque part. Donc là, ça pose un problème de l'action qu'on dit non à. C'est souvent les mauvais écologistes, ce qu'on appelle des NIMBY, c'est-à-dire not in my backyard, pas chez moi. On veut tous des téléphones portables, mais on veut pas de mine de tantale chez soi, il faut les mettre en Chine ou en Afrique. Si les Chinois, les Africains s'empoisonnaient, c'est pas grave, du moment que j'ai mon portable et pas d'empoisonnement. Pensez-y tous.
Le complet, d'ailleurs, c'est not now, pas maintenant, et not in my backyard.
Voilà, not now, pas maintenant et pas dans mon arrière-cour.
Voilà. Alors, il y a aussi une question là qui rejoint un peu celle-là, c'est est-ce qu'on peut envisager de stocker du méthane et artificiellement? Et deuxièmement, est-ce que tu peux rappeler quel est le rapport entre méthane et CO2 en ce qui concerne l'effet de serre?
C'est 25 à 30. Joël, tu dis combien, toi? 25. Moi, je dis 25 à 30. Quand on lit la littérature, au début c'était plutôt 30, ça baisse, ils font des expériences, mais beaucoup plus. Alors c'est moins grave à long terme le méthane, parce qu'avec l'oxygène de l'air et les ultraviolets solaires, il est cassé. Donc tu prends du méthane, au bout de je ne sais pas combien de temps, quelques milliers d'années, il est transformé en CO2, donc l'effet de serre est baissé.
Nous voici rassurés.
Voilà, non mais en attendant qu'il soit cassé, on en chie. Et comme ça amplifie considérablement, tu peux voir l'effet boule de neige dont j'ai parlé. Et c'est une épée de Damoclès qui nous pend au-dessus de la tête, celle-là.
Est-ce qu'Internet a des questions?
Oui, il y en a une. Est-ce que l'info sur une fin de l'humanité dans 100 ans est-elle probable au rythme des dégradations actuelles?
Alors, ça, je ne peux pas dire. Il faudrait un sociologue. J'aurais envie de dire que non. Sauf cas de catastrophe, genre une grosse météorite qui nous tombe. Mais tu auras des perturbations, on va dire, écologiques au sens écologie humaine, c'est-à-dire agricole. Tous les écosystèmes agricoles vont être perturbés. Il y a des régions qui vont devenir invivables. Donc, il y aura des migrations terribles. Mais il restera des endroits, a priori, vivables. Donc, je ne vous dis pas les guerres. Je donne deux exemples. Prenez le Bangladesh. La moitié du Bangladesh, c'est à une altitude inférieure à 5 mètres. À chaque fois qu'il y a un gros cyclone, un gros cyclone, une fois tous les 30 ou 40 ans, c'est envahi, ça sale les rizières, et pendant quelques années, il y a des mauvaises récoltes. Si ça arrive une fois tous les 30 ou 40 ans, c'est pas trop grave. Mais si la mer monte d'un mètre ou deux, ce qui va arriver, ça sera tous les 5 ans qu'on aura des gros cyclones qui feront ça. Et le Bangladesh va devenir incultivable. Où vont aller les Bengalis? Au sud, c'est la mer. Au nord, c'est l'Himalaya. Il reste l'est et l'ouest. Les Bengalis sont musulmans. L'Est, c'est la Thaïlande. Vous connaissez l'amour des bouddhistes thaïlandais pour les musulmans. Les musulmans en Thaï, ça s'appelle les Rohingyas. Et d'autre côté, c'est l'Inde, où ils sont hindouistes. Vous connaissez l'amour des musulmans et des hindouistes. Donc, que vont devenir ces Bengalis? Ça va être terrible. Autre exemple que je donne, il y a plein de Maghrébins au Maghreb. Pour l'instant, c'est une banalité. Imaginez que la variation climatique fasse que le Sahara franchissent la barrière de l'Atlas et que la côte méditerranéenne, qui est un beau verger, on fait du blé, des oliviers, tout ce que vous voulez, devienne un désert. Il y a 50 millions de Maghrébins qui vont prendre le bateau pour aller en Europe. Alors on mettra des mitraillettes, on en tuera 90%. C'est le rêve de certains, pas le mien. Hein. Mais il en restera 10%. Ça en fera des émigrés. Hein. Si vous êtes raciste, vous avez le droit. On n'a pas le droit de faire de la propagande pour le racisme. On a le droit, au fond de son cœur, d'être raciste. Lutter contre le réchauffement climatique.
Colossale finesse. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme... Est-ce qu'il y a une autre question ou est-ce que cette remarque est quasiment définitive? Pas d'autres questions? Est-ce qu'il y a une question sur Internet?
J'en ai une qui vient juste d'arriver. Réduire la production massive de bovins serait-il suffisant à la réduction significative de l'azote?
Alors l'azote, je n'ai pas parlé de l'azote, j'ai parlé du méthane. Alors l'azote, effectivement, les bovins mangent du soja. Le soja, pour simplifier, hein, le bovin industriel, hein, je parle des bovins industriels, mange du soja brésilien. Le soja est riche en azote parce qu'il vient en symbiose avec des bactéries qui prennent de l'azote dans l'atmosphère. Donc ça prend de l'azote de l'atmosphère du Brésil pour faire des nitrates ou de l'ammoniac qu'on met dans les champs bretons. Parce qu'ensuite, les merdes de vaches, des élevages industriels, on les épand. Donc, ça limiterait ce transfert d'azote atmosphérique brésilien au champ breton. Mais l'azote serait toujours en quantité. Ça limiterait la production de méthane. Je ne sais pas les bovins, les ruminants, quelle est la production de méthane qu'ils font. Mais j'essaye, moi, depuis un certain temps, pas tellement à cause de l'azote, mais à cause du méthane, de limiter ma consommation de ruminants, c'est-à-dire bœuf et mouton, puisqu'on est en Occident, que je remplace par du cochon et de la volaille qui ne fait pas de méthane.
Donc du canard du Gers.
Par exemple, du canard du Gers, mais pas qu'il soit nourri au soja brésilien. Hein.
Monsieur le Président du département, vous relevez cette remarque. Bon, voilà, merci.
Si j'ai encore une minute pour répondre à la question de madame. Tu viens à boire.
Non, il reste.
Vous avez posé une question.
Non, ben vous viendrez la poser tout à l'heure.
Sur la. Je sais plus quoi.
Non, parce que là, on va être obligé de quitter la salle.
Oui, il faut quitter la salle.
Revenir à 16h. De façon.
Il y a quelqu'un qui m'a posé une question.
Pour le cycle cinéma.
Je pensais à un complément.
Alors.
C'était pour le cinéma. Sur l'Amazonie.
Nous n'avons malheureusement pas pu obtenir les droits sur Proxima. Donc, vous n'allez pas avoir à 16h Proxima, mais Darkstar, qui est un film tout à fait différent, mais également très intéressant, vous verrez. Donc, Proxima, non, Darkstar le remplace. Merci.